Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. Ce mardi, Vladimir Poutine a officiellement débuté son cinquième mandat de président de la Fédération de Russie. Une investiture dans le faste du Kremlin qui précède le défilé du jour de la victoire, ce 9 mai, sur la Place Rouge. Mais peu nombreux sont les Russes qui peuvent assister à ces moments historiques, autrement qu'à la télé. Bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous sommes avec le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Alors, il se trouve que, contrairement à l'immense majorité de la population, toi, tu as pu te rendre sur la Place Rouge ce matin. Je t'ai vu en direct sur BFM TV, car, magie de l'administration russe, tu es accrédité pour le défilé du 9 mai. Avant toute chose, j'aimerais que tu m'expliques à quoi ressemble l'endroit aujourd'hui, je veux dire dans les préparatifs, la Place Rouge.
Oui, alors, bon, c'est tout ça avec modération parce que j'ai quand même fini par me faire expulser de cette place au moment où, d'ailleurs, Vladimir Poutine a commencé son discours. En fait, la place...
Ça aurait été trop beau.
Voilà. La Place Rouge en elle-même, en fait, elle est fermée depuis plusieurs jours parce que il y a les tribunes qui sont installées pour le défilé du 9 mai. Il y a tout un système, un dispositif de sécurité qui est installé pour s'assurer qu'il n'y ait strictement aucun passage à proximité de la tribune sur laquelle sera situé Vladimir Poutine, sera placé Vladimir Poutine. Moi, j'avais accès ce matin, par contre, à ce qu'on appelle la place du manège, qui est cette place qui est située à l'entrée de la Place Rouge. C'est par là que les tanks passent pour entrer sur la place pendant le défilé militaire du 9 mai. Il y a aussi un gros dispositif de sécurité. Il y a les caméras qui sont déjà installées. Ça m'a un peu étonné, mais en fait, il faut savoir qu'il y a des répétitions de ce défilé du 9 mai. Et ces répétitions, elles sont filmées pour que s'il y a un problème le 9 mai, on puisse repasser des vieilles images. Donc en fait, tout a été déjà filmé, mais le dispositif est assez impressionnant. J'ai remarqué aussi, alors c'est un petit détail que je te raconte tout de suite, une petite anecdote. Au pied de cette place rouge, au niveau de cette place du manège, il y a la flamme du soldat inconnu sur laquelle Vladimir Poutine se rend régulièrement. Et il va s'y rendre le 9 mai à l'issue de cette parade militaire. J'avais jamais remarqué ça jusqu'ici, mais ils avaient installé une espèce de gigantesque vitre blindée à l'endroit exact où Vladimir Poutine sera placé pour déposer sa gerbe le 9 mai. Et donc, je découvre progressivement et régulièrement de nouvelles mesures de sécurité qui entourent Vladimir Poutine, à savoir que donc, lorsque Vladimir Poutine a commencé son discours lors de son investiture au Kremlin, je me suis fait tout simplement expulser de la place. Alors, j'entendais Maxime Switek à l'antenne qui me lançait pour mon direct. Et à ce moment exact, les réseaux ont été coupés. Des policiers me sont tombés dessus pour appuyer un peu un contrôle qui avait déjà eu lieu avant et finalement me demander de quitter la place. Donc voilà les conditions, tout ça sous une neige de mai.
Pour revenir sur cette histoire de soldats inconnus, on le dit chaque année, c'est le moment, même si ça se passe à la télévision, où il y a un semblant d'interaction entre le président et son peuple, un peuple vraiment choisi. Je vais te reposer des questions sur le fait que notamment la population, le kidam russe, n'a pas accès à tout ça, mais on le voit saluer. Et oui, il y a ce cheminement de la Place Rouge vers je dirais presque les monuments, c'est plusieurs pierres tombales où ça ressemble un peu à ça, du soldat inconnu, il y a du monde autour de lui et là tu m'étonnes en me disant que même pour ça, il y a des mesures de sécurité supplémentaires.
Oui, mais tu sais, ça fait déjà quelques temps que je remarque que sur la Place Rouge, notamment pendant donc, le défilé, la parade militaire, comme on dit ici, du 9 mai, qui est, soit dit en passant, un des rares moments dans l'année durant lequel je peux voir, moi, personnellement, Vladimir Poutine à quelques mètres de moi. Ça fait plusieurs années que j'ai remarqué qu'il y avait des snipers des deux côtés de la place, c'est-à-dire que tu en as qui visent le public et les journalistes. On les voit, ils nous regardent dans leurs jumelles pendant toute la cérémonie. Et puis, il y en a aussi de l'autre côté qui, eux, regardent les militaires qui sont en face de Vladimir Poutine. Et je l'avais aussi remarqué lors d'un exercice militaire où les snipers, pour le coup, étaient pas sur le terrain de bataille, mais de notre côté, à regarder les soldats qui étaient sur le front. Donc il y a quand même...
Tu veux dire comme pour l'assassinat de Sadat en 81 en Égypte, où c'est un soldat qui sort du rang et qui tire sur la tribune officielle.
C'est ça, Bah, je pense que je me fais la remarque à chaque fois. Je pense que c'est ce qu'ils ont en tête. En gros, c'est de la paranoïa. Il faut faire confiance à personne. Et donc, on met en place des dispositifs qui clairement montrent qu'on ne fait confiance à personne. Et donc, pour revenir sur ta question initiale, c'est vrai qu'il faut le préciser parce que c'est pas forcément su. Le 9 mai, pendant cette parade militaire, il n'y a pas de Russes sur la place. Enfin, il y a des Russes, mais ceux qui ont été invités par le Kremlin, des stars, des vétérans, des faux vétérans aussi. Des fois, vous voyez des gens avec plein de médailles sur leur costume et vous découvrez dans la presse d'opposition qu'en fait, ils n'ont jamais mis à pied sur une ligne de front, mais voilà, on ne sait pas vraiment comment ils ont obtenu des médailles, vraies ou fausses, pendant leur carrière.
Certains finissent même ministres de la Défense, non ?
Voilà.
Parce que Shoigu, il n'a pas vu beaucoup de champs de bataille.
Exactement, sur un malentendu, on peut monter un peu dans le système. Alors, je sais que si vous avez des connaissances, il y a des gens qui essaient de décrocher des invitations pour être dans la tribune de la Place Rouge, mais c'est très, très difficile. Et puis, c'est contrôlé. Les invitations sont directement contrôlées par le FSO, c'est une espèce d'antenne du FSB, mais qui est chargée de la protection des hautes personnalités. Et nous, on est tous scannés. Moi, mes documents, je les ai envoyés il y a déjà un mois à peu près au Kremlin. Et les services de sécurité nous scannent, vérifient qui on est, ce qu'on vient faire. Il y aura tout un dispositif de sécurité avant de pouvoir entrer sur la Place Rouge le 9 mai. Autant dire que je vais me lever assez tôt pour pouvoir être présent à 10h pour le début de cette cérémonie. Et donc la réalité, c'est que les Russes, il y a beaucoup de Russes, hein, qui veulent assister à ce spectacle et qui viennent de régions et qui ne savent pas eux-mêmes que ça se passe comme ça. Ils ne savent pas que les Russes n'ont pas accès à la Place Rouge. Et donc, tous les ans, je vois des Russes qui se cassent le nez sur la police, pas toujours très aimable, qui leur expliquent, en gros, d'aller se faire voir et de s'éloigner de la Place Rouge. Et donc, ceux qui connaissent cette situation savent qu'il faut aller en fait sur Novi Arbat, qui est une grande avenue de Moscou, et en fait c'est une espèce de voie par laquelle les tanks, les blindés du défilé repartent vers leur
base. C'est le défilé off.
Voilà, hein. C'est une sorte de défilé off, mais sans les hommes, parce que le plus impressionnant de ce défilé, en fait, ce sont les masses de militaires. Et ça, nous, on va être les seuls à aller voir sur la Place Rouge, parce qu'évidemment ces hommes, ils traversent la Place Rouge et après ils remontent dans leur bus et ils s'en vont. Voilà, les Russes doivent se contenter des tanks et évidemment aussi du défilé aérien, mais qui est annulé une année sur deux à cause de la météo.
Alors justement, toi, tu vas pouvoir y assister à ta grande surprise, Paul.
C'est un miracle, oui. Alors quand j'ai commencé à travailler en Russie, à 7 ans, on n'était pas vraiment invité à ce défilé. Puis un jour, ils se sont mis à nous inviter, une année, ils se sont mis à nous inviter. Moi, j'ai toujours demandé mes accréditations à partir du moment où on était invité, parce que voilà, c'est une rare occasion de voir Vladimir Poutine. On va pas se le cacher, c'est un spectacle assez impressionnant quand même, même si tout est beaucoup plus petit qu'à la télévision, comme souvent. Mais ça reste un spectacle impressionnant. Ça commence quand même par ces milliers d'hommes qui crient « Hourra, hourra !» après que l'horloge du Kremlin ait sonné et qu'une grosse voix ait dit « Moscou parle à la Russie ». Enfin, on a l'impression d'être en URSS presque. Donc c'est toujours un moment assez impressionnant. Et donc, depuis le début de la guerre, depuis 2022, là, ça faisait 2 années durant lesquelles nous n'étions pas invités à ce défilé. Parce qu'on fait partie de pays dits non amicaux, inamicaux en Russie. Et cette année, on ressent depuis plusieurs semaines une volonté de communiquer avec nous. Il y avait des médias français, en tout cas un ou deux représentants de médias français qui étaient présents à la cérémonie d'investiture de Poutine, ce qui n'est pas assez courant. Il y a des communications qui refonctionnent un peu avec le Kremlin en ce moment. Donc on sent que le Kremlin veut recommuniquer avec nous. Et visiblement, parmi toutes ces stratégies, on va dire, pour communiquer de nouveau avec nous, eh bien, on est invité cette année à assister à ce défilé militaire.
Et à voir Vladimir Poutine de près. Ce que tu as pu voir de près aussi, et c'est tout sauf anodin, ce sont des chars français, ou au moins un char français qui avait l'air tout neuf. Raconte-moi cette expérience de ce week-end des prises de guerre. Alors ouais. Moi, j'ai pu voir l'inverse, c'est-à-dire à Kiev, prises de guerre russes avec énormément de monde qui venait. Et c'était parfois assez émouvant parce qu'il y avait déjà des vétérans, on peut les appeler comme ça, des soldats blessés qui venaient en famille et avec des chars russes, voire soviétiques, très impressionnants. Toi, tu as pu voir le pendant, c'est-à-dire l'exposition russe avec les prises de guerre de l'OTAN, parce que ce sont bien des prises de guerre de l'OTAN, selon les Russes.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, sur chaque blindé, les Russes avaient ajouté le drapeau d'origine du véhicule plus un drapeau de l'OTAN. Sur une grande place, un grand parc qui s'appelle le Parc de la Victoire à Moscou. Et donc, sur cette place, ils ont réuni une vingtaine de véhicules à peu près, une vingtaine de blindés. Ils sont majoritairement...
C'est bizarre, ils ont l'air tout neufs, pardon, hein, Paul, oui. Mais ils ont l'air tout neufs.
Oui, c'est clair, ils sont pas particulièrement amochés. Alors, sur certains, alors, ce sont majoritairement des blindés américains et ukrainiens. Et après, les autres, ce sont à peu près un blindé par pays qui aide l'Ukraine. Donc, il y a ce blindé français qui, d'ailleurs, attirait beaucoup les gens parce que les gens aiment beaucoup la France. Et moi, je me suis positionné devant ce blindé et j'entendais tous les gens dire « Ah, mais c'est un blindé français !» Et il y avait un mélange de fascination et puis de haine derrière, qui était vraiment très, très étrange à observer. Mais j'ai un peu écouté...
C'était à la fois la France de Macron et celle de Gilbert Bécaud.
Oui, c'est ça. C'est très étonnant. Alors du coup, j'hésitais à dire aux gens que j'étais français. Je me disais « Ah, bah, ils ont quand même l'air de bien aimer la France. » Et puis, je l'ai fait une fois. Et puis, là, un monsieur m'a demandé de partir en m'expliquant que mon pays était en train de tuer les siens. Il s'est mis à me parler en allemand, certainement pour me signifier que dans son esprit, la France soutient les néo-nazis ukrainiens. Bref, ça donne lieu à des discussions assez étranges. Et donc, oui, pour répondre à ce que tu disais sur quelques-uns de ces blindés qui, effectivement, avaient, comme s'ils avaient été repeints ou, je sais pas, oui, rendus propres pour l'occasion, il y avait des impacts de balles sur plusieurs vitres de ces blindés. Et je me suis demandé en visitant si ça avait été rajouté ou pas avant l'exposition, parce que c'était évidemment placé au niveau du conducteur ou du copilote, comme si on montrait que des snipers russes étaient parvenus à tuer les pilotes à distance. Alors je t'invente toute une histoire, mais je me suis fait cette remarque en tout cas en voyant ces véhicules qui étaient... amoché pile où il fallait, on va dire.
Je reviens sur la Place Rouge. Ça fait quelques années que je commente le défilé sur l'antenne de BFM TV. Et il y a toujours cette date, on la voyait derrière toi, qui est étonnante et qu'il faut toujours rappeler ces deux dates, 1941-1945. Nous, le 8 mai, 23h à Berlin et en France, c'est la capitulation nazie, mais c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a encore des combats dans le Pacifique entre les Américains et les Japonais. La 23h, le 8 mai à Berlin, 1h à heure de Moscou le 9 mai, fin de la Grande Guerre patriotique qui, elle, a duré 4 ans. Comment tu le ressens, ça, le fait que, bah oui, ça a commencé en 41, lorsque Hitler a mis fin au pacte de non-agression germano-soviétique?
Bah, tu sais, ici... On est dans une réécriture de l'histoire qui est permanente, continue depuis plusieurs années maintenant. La façon dont tout ça nous est présenté, c'est presque comme si les Russes, en plus, alors que c'était les Soviétiques, qui n'étaient évidemment pas composés que de Russes, il y avait même beaucoup d'Ukrainiens au sein des troupes soviétiques, donc comme si c'était les Russes à eux seuls qui avaient sauvé toute l'Europe. Et ce qu'on essaie de nous expliquer, c'est que l'Europe est redevable de la Russie, envers la Russie, et que, à défaut d'être redevable, au moins, on devrait les apprécier et les remercier à leur juste valeur. Et tout ça, je veux dire, ça se discute. Il y a du vrai, il y a du faux dans tout ça. Je comprends ce discours, je comprends cette volonté, parce que les Russes ont payé, les Soviétiques ont payé un très lourd tribut durant cette guerre, et en gros, après le défilé militaire du 9 mai, il y aura la marche des immortels dans le centre-ville de Moscou, et c'est à peu près 1 million de personnes, il faut quand même se l'imaginer, qui vont descendre l'avenue de Verskaya et traverser la Place Rouge pendant plusieurs heures, avec des photos, alors qui ne sont pas toujours vraiment les photos de leurs proches morts pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas... des photos d'hommes qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, comme on l'appelle ici, et à qui on rend hommage. Et c'est un moment toujours très émouvant et qui est d'autant plus troublant que cette histoire, elle a été politisée avec le temps. Et donc, vu de mes yeux de Français, pour moi, cette histoire, elle est salie. Cette mémoire, elle est salie par le Kremlin parce que, en gros, il y a eu les héros de la Grande Guerre patriotique. Et puis maintenant, on leur explique qu'on les met au même niveau que ceux de l'invasion de l'Ukraine actuelle. Et c'est un parallèle qu'on essaie de construire en permanence. Et je préciserai que cette exposition dont on parlait avec les blindés occidentaux, au milieu de l'exposition, ils ont mis un blindé de l'armée nazie. Et au-dessus, ils ont écrit « L'histoire se répète ». Et en fait, tout était sur une place, toute la stratégie du Kremlin était affichée, était claire. On essaie de créer à tout prix un lien entre la guerre en Ukraine et la Grande Guerre patriotique. Et on travaille là-dessus au quotidien. Et j'ai la sensation que ça commence à prendre dans la société. Et en tout cas, sur cette place, ce sont les discours qu'on m'a tenus, quoi. On a gagné pendant la Seconde Guerre mondiale et on va bientôt l'emporter aussi contre les Occidentaux.
Alors, si on veut dépolitiser, moi, je trouve cette initiative, même si elle était totalement politique, soviétique, celle du régiment des immortels, c'est quand même, je trouve, quelque chose de très, très beau, au-delà de la propagande, toi, dans tes reportages, quand tu es autour du 9 mai, au-delà de ce principe. En France, on a tous une histoire avec nos grands-parents, arrière-grands-parents sur cette guerre. Il y a eu des moments difficiles avec notamment l'occupation. Oui, mais nous, on n'a pas perdu des dizaines de millions de compatriotes. Et quand je dis compatriotes, c'est au grand sens du terme, comme tu le dis. On parlait de soviétiques et pas seulement des Russes. Comment tu, quand tu vas en reportage aux alentours du 9 mai, quand tu discutes avec des Russes, comment ils ressentent cette histoire qui est absolument terrible, même si elle se termine avec une victoire à Berlin?
C'est toujours un rappel que, et c'est ce qui est assez fascinant quand tu es journaliste français en Russie, c'est que n'importe quel Russe que tu vas rencontrer a une grande histoire derrière lui. Et donc tu peux interroger n'importe quel Russe dans la rue. À partir du moment où il va te raconter l'histoire de sa famille, c'est forcément fascinant. Donc c'est sûr que à l'approche du 9 mai, le 9 mai, tu peux être amené à rencontrer des gens qui vont te raconter des histoires incroyables et très touchantes. Et surtout, tu vas ressentir l'émotion. C'est ce qui est assez fou, parce que tu te retrouves dans une vague menée par Vladimir Poutine, d'ailleurs. Lui, à chaque fois, se met au premier rang de ce défilé. Et tu te retrouves dans une vague pleine d'émotions. Et aussi avec plein de choses un peu bizarres, bon, des drapeaux de Staline, des chants patriotiques soviétiques, russes, enfin, c'est une ambiance assez particulière, mais par contre, il y a cette émotion qui est réelle et qui est personnelle, et c'est ce qui fait d'ailleurs que je pense que des gens, même des gens qui ne soutiennent pas Vladimir Poutine, descendent participer à ce défilé des immortels, parce que nous, évidemment, on voit la politisation à l'extrême de cet événement, mais pour beaucoup de gens, c'est avant tout l'hommage qui passe avant cette politisation, et c'est presque une victoire pour Vladimir Poutine. C'est pour ça aussi qu'il utilise beaucoup cette occasion pour exacerber le patriotisme et appeler à le soutenir dans cette guerre en Ukraine, parce qu'il sait que l'émotion, elle est réelle et elle est encore forte après toutes ces années chez les Russes.
Alors, on le sait depuis au moins 2 ans, en tout cas depuis le déclenchement de la guerre, on s'attend, ou on nous pose toujours la question, alors ça y est, le 9 mai est passé, il faut un nouvel objectif pour Poutine. Comment tu sens, au-delà de cette offensive qui se prépare, et les esprits qui sont préparés, y compris en Ukraine, je crois, lorsqu'on écoute les chefs de services de renseignement, comment tu vois les prochaines semaines après ce 9 mai et cette réinvestiture?
Non, ben il y a forcément quelque chose qui va se passer, parce que effectivement il y a l'investiture surtout, et là c'est un ensemble, investiture plus 9 mai, et là pendant cette investiture, mais les discours qui ont été tenus, pas étonnants, mais qui sont quand même assez particuliers, ça donne le ton des temps à venir, un Vladimir Poutine ultra nationaliste, ultra conservateur, un président russe qui part du principe qu'il n'y a plus d'opposition, que tout le monde le soutient maintenant dans le pays, un Vladimir Poutine céleste, je pense que c'est un mot qu'il va falloir qu'on utilise maintenant, parce que de plus en plus, il essaye presque de se faire passer pour un personnage religieux, le patriarche Kirill.
Il a parlé de son devoir sacré.
Exactement, exactement. Et le patriarche Kirill, d'ailleurs, sous-entendu que pendant la messe à l'issue de cette cérémonie, a sous-entendu que Vladimir Poutine avait presque été envoyé par Dieu, en fait, pour soutenir, pour protéger les Russes. Donc ce sont des discours qu'on entend de plus en plus. Et ce Vladimir Poutine céleste, eh bien, il a des ambitions, notamment dans le Donbass, parce que c'est utile politiquement à l'intérieur, et puis parce que cette guerre, elle est en cours et qu'il a envie d'aller au bout de ce qu'il a annoncé. Il y a celui qu'on appelle le mort-vivant Ramzan Kadyrov, le dictateur de Tchétchénie, qui était présent pendant cette cérémonie. Et lui, il a dit quelque chose qu'on sait déjà tous, mais qui, à mon avis, est réellement dans les esprits au Kremlin. Il a dit l'objectif maintenant, ça va être de prendre Kharkiv, ensuite de prendre Odessa, Et derrière, on essaiera peut-être de négocier avec l'Ukraine, mais en tout cas, ce sera l'objectif à partir de maintenant. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on a tous en tête, et on peut imaginer que dans les semaines qui viennent, il y ait on va dire, un coup qui soit un peu plus fort donné en Ukraine pour que l'armée russe s'attaque frontalement et peut-être plus fortement à ses objectifs.
Réécrire l'histoire pour faire les choses les plus effroyables, alors que déjà ton propre peuple a beaucoup souffert, qu'il y a autant d'histoires dramatiques que d'habitants dans la Fédération de Russie. Merci beaucoup, Paul. On va te retrouver sur BFM TV, justement le 9 mai, au plus près, en bas de la tribune. Tu me l'as déjà dit, mais tu auras sans doute un salut général de Vladimir Poutine, mais toi, tu ne pourras pas lui poser la question.
Je m'attends avec impatience.
Mais on va suivre ça à la télé. Puis on se retrouvera bien sûr sur ce podcast la semaine prochaine, à lundi prochain, Paul. Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast original sur bfmtv.com, BFM Radio et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.